les rencontres politiques en Ariège. Questions locales, territoriales, régionales, interrégionales ou même mondiales. C'est à retrouver en écoute sur Radio Qui Pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique. Celui qui ne veut pas lutter a déjà perdu. L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires elle-même. Alors, on en discute pour mieux agir. Sur Radio Kikiki Pique. 27 juin 2024, rencontre organisée par la librairie Le Cachalot à Foix avec la juriste Karine Parot pour son livre Étranger, aux éditions Anna Moza, dont on peut lire sur la quatrième de couverture, je cite, « Dans la veine propre à la collection Le mot est faible, ce nouveau titre revient sous l'angle du droit sur l'histoire de la nationalité française inventée à la fin du XIXe siècle et utilisée depuis pour fabriquer des étrangers et les soumettre à des régimes plus ou moins sévères et cruels suivant les besoins du marché du travail. » De définition univoque de l'étranger, il se définissait par défaut comme celui qui n'appartient pas à la communauté. Il existait donc autant de figures de l'étranger que de manières inventées par les humains de faire communauté. Ce flou entourant la notion d'étranger a aujourd'hui disparu. L'État-nation s'est approprié le concept pour en dessiner les contours au scalpel. L'étranger est celui qui n'a pas la nationalité de l'État sur le territoire duquel il se trouve. Désormais attribué de manière incertaine par l'effet du droit, la nationalité sépare irrémédiablement le national et l'étranger pour soumettre ce dernier à un régime spécial, arbitraire, plus ou moins sévère, et cruel suivant les besoins de l'économie et les considérations politiques du moment. Et lorsqu'on se penche sur la condition des personnes étrangères en France, on observe un droit ségrégationniste, ce qui semble largement admis, et un racisme systémique de l'État et de ses institutions, qu'elle nie avec un cynisme de moins en moins feutré. L'un des enjeux de l'ouvrage est de montrer que la catégorie d'étranger, opposée à celle de national, n'a rien de naturel. En revenant sur la fabrique de la nationalité française à la fin du XIXe siècle, on comprend qu'elle n'est pas un attribut de la personne humaine et que la qualité d'étranger définie en creux l'a été depuis son origine par l'État à des fins utilitaristes. Satisfaire le marché du travail et organiser la ségrégation des candidats suivant leur origine, voilà les deux axes inconditionnels de la politique migratoire française. Lorsque le besoin de main-d'œuvre peu qualifiée baisse dans la dernière partie du XXe siècle, la France puis l'Europe tout entière cherchent à entraver l'arrivée de nouveaux migrants, notamment grâce à des systèmes juridiques et policiers toujours plus sophistiqués. Ces dispositifs de gestion des flux obligent les personnes qui veulent gagner l'Europe à mettre leur vie en jeu, et c'est un phénomène nouveau, elles sont des milliers à mourir chaque année sur les routes de l'exil. Si tout cela est possible, s'il existe des milliers d'agents étatique pour mettre quotidiennement en œuvre ces politiques inégalitaires et féroces, c'est qu'elles sont largement habillées par le droit. Le droit est en effet un outil terriblement efficace. Il confère à cet édifice macabre sa légitimité, tandis que l'enchevêtrement des textes et l'abstraction des catégories juridiques tiennent le réel à distance.
Avec ce bouquin, depuis au moins plusieurs années, je dis à la fin, maintenant, voilà, il faut faire des liens. Si c'est des réseaux de camaraderie, pas forcément d'amitié, mais de camaraderie, parce que le post-fascisme, je sais pas, c'est pas le fascisme de cultiver ça, cette expérience de l'autre, prendre soin de l'autre, pas forcément des étrangers, parce qu'en fait on s'en fout qu'ils soient étrangers ou français, etc. Donc cet épisode, je veux pas dire qu'il est pas singulier si le Front National arrive au pouvoir. Mais il s'inscrit quand même dans une grande continuité. Je veux dire, on est dans un truc très délétère pour les libertés individuelles collectives depuis longtemps. Même pas seulement Macron, allez, Sarkozy et compagnie. Donc voilà, on est là-dedans. En plus, il y a quand même, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus après, mais il faut compter. Enfin, moi, alors, tu me prends un peu de. Moi, je ne crois pas dans... Mais ce serait très personnel et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je ne crois pas dans l'État. Je ne pense pas qu'on va réformer l'État pour en faire un truc super. Donc, à partir de là, je crois dans une forme de communalisme et de mise en réseau d'expériences locales qui a un sens du point de vue humain. Voilà. Et donc, c'est cultiver à l'endroit où on est des expériences d'entraide et essayer de les faire se croiser, se rencontrer, ce machin. Tu vois,
On adore.
Je vois pas trop, je sens pas trop la France insoumise. Après, ça veut dire que ça veut pas dire. Bah, voilà, mais bon, après, ça, c'est mon truc personnel. Enfin, moi, j'irai voter, etc., pour une fois. Je veux dire, ça, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va continuer à essayer de s'entraider. Et puis aussi peut-être faire d'autres trucs. Enfin, en fait, je ne sais pas s'ils auront la majorité super absolue. Bon, après, il y a des problèmes ici et dans le 9-3 d'où moi je viens, ça ne va pas être le même. Dans le 9-3, ils vont lâcher les flics, ça va être un enfer, ça va être. Tu vois, donc là, il va peut-être falloir s'organiser physiquement aussi. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est...
Je lis juste un petit extrait, c'est pour faire un petit écho à ma question d'introduction qui était un peu voilà, lâchée comme ça, mais
c'est en vrai, vengeance.
C'est
vraiment ça. C'est
le droit. Mais c'est pour parce que ça fait vraiment écho à des choses qui sont en train de se passer là. T'écris dans ton livre, moins de deux semaines après le vote des pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940, une loi ordonne la révision de toutes les naturalisations prononcées depuis la fameuse loi de 1927. Il s'agit officiellement d'éliminer de la collectivité française les éléments nuisibles qui avaient pu s'y introduire. Là, c'est une citation entre guillemets. Hein. D'éliminer de la collectivité française les éléments nuisibles qui avaient pu s'y introduire. Entre 40 et 44, ce sont ainsi plus de 15 000 personnes qui sont dénaturalisées par une commission spécialement créée à cet effet, présidée par un conseiller d'État et composée de magistrats parmi les plus hauts gradés. Ces magistrats qui travaillent sans pression particulière ciblent d'abord tous les naturalisés les plus récents, ceux du Front populaire, considérés comme les moins français, puis les juifs, au nom de l'intérêt général. Les dénaturalisés sont sommés de rendre leur papier d'identité de français. Étrangers, ils se retrouvent livrés à l'arbitraire administratif et à ces règles tatillonnes qui subordonnent le droit au séjour à l'exercice d'un emploi et réciproquement. Celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique réservée aux Français perdent leur emploi, tandis que d'autres sont assignés à résidence dans les lieux où ils peuvent exercer une activité professionnelle. Voilà.
Ouais. Alors ça, c'est vrai que...
Bien sûr,
c'est vrai que ça, c'est un des trucs quand Bardella dit que les doubles nationaux, les binationaux ne pourront plus exercer un certain nombre de fonctions. Là, c'est vraiment... Il n'y avait que sous Vichy qu'on avait eu ça, c'est-à-dire des sous-français qui n'ont plus accès... À certaines fonctions. Et ce qui est intéressant aussi dans cette période de Vichy, c'est de voir, il ne faut pas qu'on. Enfin, quand on fait du droit des étrangers, ce qui est mon cas, ou du non-droit des étrangers, on sait déjà qu'on ne peut pas compter sur la Cour de cassation, les conseils d'État. Enfin, je veux dire, quand on s'intéresse à la question des étrangers, et si vous êtes là ce soir, c'est peut-être un peu votre cas, plus ou moins votre cas, hein, vous savez déjà qu'on vit dans une sorte de fascisme. Enfin, je veux dire, enfin, après, au Gisti, on s'engueule parfois, non, c'est pas du fascisme, machin. Genre. Bon, ouais, mais bon, je veux dire, on enferme des gens parce qu'ils sont pauvres dans des camps, on lacère leurs tentes, on pisse dans leurs gamelles, etc. Je veux dire, c'est quand même, on les tue pas encore ouvertement, mais quand même, on s'organise pour qu'ils meurent en mer avant d'arriver sur le territoire. Donc, bon, c'est pas la même chose, c'est d'autres choses, mais c'est quand même d'une violence et d'une inhumanité. Qui interpelle, voilà. Et surtout, mais on y reviendra peut-être, quand on s'intéresse à la question à la manière dont l'État traite les étrangers, on ne peut plus du tout avoir confiance dans le droit. Enfin, je veux dire, le droit devient une grosse blague, une mauvaise blague. Donc déjà, l'État de droit, enfin, je veux dire, ça fait rire, quoi, jaune. Enfin, je veux dire, on sait que l'État de droit n'existe pas. Et je veux dire, ça, c'est aussi un truc qui est. Si l'État de droit n'existe pas pour cette minorité qui, en fait, n'a pas, dans le rapport de force politique, pour le dire vite, qui n'existe pas dans dans le rapport de force politique, eux n'ont pas de droit. Enfin, je pourrais en parler, je pourrais le démontrer scientifiquement. C'est pas militant, ça. Si je dis, c'est un petit peu excessif. Mais je veux dire, ils ne peuvent pas exercer leurs droits. Ils sont soumis à l'arbitraire. Je veux dire, on y reviendra. Les conditions dans lesquelles la justice est rendue contre eux est totalement délirante. Si vous étiez soumis au quart du machin de ça, dans la GECO qui jouxte le centre de rétention avec l'interprète par téléphone, avec l'avocat qui a eu 10 minutes pour examiner votre dossier, avec la juge qui n'est même pas en robe parce qu'elle n'en a rien à foutre. Bah, je veux dire, c'est une justice, mais c'est même plus une justice au rabais, c'est un simulacre de justice. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la réalité pour les milliers de personnes étrangères. Donc, voilà. Donc, quand on s'intéresse à la question, à la condition des personnes étrangères en France depuis, disons, 30 ans, on sait déjà à qui on a affaire. Voilà.
Et alors, pour reprendre un peu là, le déroulé de ton livre, donc tu l'as dit, hein, mais je le rappelle, c'est vraiment un livre qui est construit comme une généalogie de l'idée de la notion d'étranger. Une généalogie pour montrer à quel point, du coup, c'est une notion récente, que c'est une notion complètement construite et mobilisée en fonction des besoins ou des non-besoins de l'État, donc qui est construite, généalogie qui est construite sous l'angle du droit aussi, parce que c'est ta spécialité. Est-ce que tu as envie qu'on reprenne un peu? Oui, tu dis, je voudrais montrer d'abord que la catégorie d'étranger, opposée à celle du national, n'a rien de naturel. En revenant sur la fabrique de la nationalité française à la fin du 19e siècle, on comprend qu'elle n'est pas un attribut de la personne humaine et que la qualité d'étranger a toujours été déterminée par l'État à des fins utilitaristes. Je pense que c'est le centre du livre. Est-ce que tu as envie qu'on revienne un peu sur cette généalogie, sur les grandes lignes historiques?
Ouais, je pense que c'est important. C'est le deuxième bouquin que je fais sur un peu la condition des étrangers, parce que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on travaille, c'est le matériel qu'on travaille quand on milite auprès et avec les personnes étrangères. Mais en réalité, j'ai été obligée de faire un pas de côté et remonter en avant avec un truc un peu théorique, parce que c'est de l'histoire. Et pour montrer, ça m'a paru vraiment important à chaque fois dans les bouquins, de revenir sur cette catégorie donc, qui distingue les Français des étrangers. Et ça, c'est aujourd'hui, dans sa version moderne, c'est vraiment le droit qui le fait. Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais c'est le droit qui le fait et qui le fait de manière très récente. On a l'impression, on nous sort les trucs sur l'identité nationale, toutes ces conneries, etc. On a l'impression que, voilà, on a une carte d'identité nationale, comme si cette nationalité, elle faisait partie de notre identité. Or, cette nationalité française, c'est quelque chose de très récent. C'est-à-dire que la première loi qui parle de nationalité, la notion de nationalité, c'est une loi de 1889. Donc, à la fin du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, je trouve, parce que ça trouve aussi des perspectives, parce que là, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, l'histoire n'a d'intérêt que si elle nous permet de mieux appréhender le présent, enfin, de mieux se combattre. Et je pense qu'une des pistes de réflexion pour nous à venir, c'est d'essayer de repenser les critères d'appartenance au groupe. Alors, au groupe politique, je ne sais pas, le mot politique, on parlait de laïcité tout à l'heure, moi, le mot politique, je me demande encore s'il faut le garder. Enfin, au groupe social, à la communauté, qu'est-ce qui fait que tu en es, que tu n'en es pas? Là, aujourd'hui, si tu es français, pas français, les critères d'appartenance à cette communauté nationale, ils sont vraiment, ils disent pratiquement tout de ce qu'est l'État. Et avant de venir sur les critères récents, actuels, qui sont en vigueur aujourd'hui dans le Code civil, je voudrais vous dire quelques mots, mais c'est forcément fragmentaire et assez rapide, vous dire que quand même, avant, remonter un peu sous l'Ancien Régime, parce que c'est vachement intéressant. Sous l'Ancien, et bon, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire médiévale, on s'en fout, mais cela dit, quand j'ai fait les bouquins, c'était génial, parce que j'avais vraiment envie de me plonger là-dedans, parce que c'est vachement intéressant. En plus, au Moyen-Âge, ça dure grosso merdo du 5e au 15e siècle, donc c'est genre... C'est énorme. Mais ce qui est vachement intéressant et qui devrait nous apprendre, évidemment, je ne veux pas pouvoir le coup du bon vieux temps avec le Moyen-Âge, bien sûr que non. Mais ce qui est intéressant, c'est que les formes de pouvoir et d'appartenance politique de l'époque sont beaucoup plus. Les pouvoirs qui s'exercent sur les gens sont vachement entrelacés. C'est-à-dire que, après, en plus, entre le 5e et le 15e siècle, il se passe plein de trucs. Les rois ont plus ou moins de pouvoir. À des moments, ils ont un peu de pouvoir au début, puis après, plus tellement. C'est vachement les ducs, enfin, les princes et les machins. Après, les rois regagnent du pouvoir et tout. Donc, c'est très fluctuant. Il n'y a pas tellement d'homogénéité. Mais en gros, on pourrait dire qu'à tous ces moments-là, l'individu, il est à la fois toujours un peu sujet du roi de France, mais il est aussi un peu le serf de son prince, ou je sais pas quoi, de son duc, mais il est aussi le maître de sa paroisse, parce que la religion a une place évidemment hyper importante, c'est elle qui tient tout l'état, on appelait pas ça l'état civil à l'époque, mais bon, elle a... Donc en fait, c'est pas, on n'est pas français, évidemment pas, mais on est un peu sujet du roi de France, un peu serf du duc de Médeux, un peu... tout de la paroisse du curé, de machin, etc. Et les pouvoirs s'entrelacent, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas pour revenir à ça évidemment, mais on n'est pas, on pourrait imaginer d'autres manières de s'organiser avec sur tel domaine, mais en fait c'est telle collectivité qui est intéressante à laquelle on pourrait se fédérer pour d'autres trucs. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans on pourrait récupérer du Moyen Âge et pas ce truc, tu vois, où on est français ou étranger.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Mais grosso modo, à l'époque du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, les historiens un peu reconnus disent que c'est à partir du 13e, 14e siècle que les gens qui habitent en France, sur le royaume de France, se sentent français. Bon, donc pour vous fixer un peu le truc, bon après, mais quand même, à cette époque, les gens se sentent surtout habitants de foi, et l'étranger, surtout celui qui habite de l'autre côté de la...
En Ariège, ils sont en train de la fête du 18e siècle, ouais, c'est ça, tu passes. Ouais.
Oui, parce que vous êtes près de la frontière.
Parce qu'il y avait une civilisation europastorale communautaire qui était pas que des sujets de droit aussi, ouais, mais qui avait sa propre existence, qui résistait, qui vivait de façon... Ouais. Autre.
Bien sûr. Tout à fait. C'est un peu pour simplifier, tu vois. Évidemment. Mais non, mais je veux dire, en Bourgogne, les ducs de Bourgogne, il y a eu des pleins de trucs, des endroits où c'était plus ou moins comme ça. Et parce que c'est aussi la propagande de la cour. Ça, j'ai bien lu. C'est la propagande de la cour qui balance tout, en tout cas, voilà, qui construit aussi l'idée de France. Alors, ils n'avaient pas Internet et tout, mais l'unification de la langue, ça passe par, tu vois, cette espèce de truc où ils veulent imposer la langue. Mais bon, ça, c'est encore plus tardif. Bon. Moi aussi, 13e, 14e siècle, ça me paraît. Mais je te dis, moi, je ne suis pas non plus historienne, je n'ai pas pu tout reprendre. J'ai lu à plusieurs reprises. En tout cas, ils ont une vague idée de ce que c'est que d'être français. Parce qu'avant encore, l'idée de frontières fermées n'existe pas. Comme dans certains endroits en Afrique, entre le Niger, l'Algérie, etc., l'idée de frontières telle que nous, on la connaît, tu vois, entre ici et l'Espagne, c'est le concept même n'existe pas. Donc, voilà. Et à la fin du Moyen-Âge, grosso modo, celui qui naît et qui habite en France est un sujet du roi de France. Bon, les gens bougent vachement moins aussi, parce que la plupart sont serfs, travaillent la terre, tu vois, c'est beaucoup les riches qui circulent. Et donc, ceux qui naissent en France et qui habitent en France sont sujets du roi de France et sont François, quoi. Enfin, c'est dans l'ancien français, François. Mais on ne parle pas de nationalité, c'est un rapport d'allégeance avec le roi. Et alors, et ce qui est intéressant, je vais vite et je fais des simplifications, j'en suis désolée, mais bon, sinon on pourrait passer la soirée. Quand même revenir sur la Révolution française qui évidemment change fondamentalement la donne et institue le citoyen français. Et là, tout à coup, ça change de gueule parce que c'est celui qui arrive. Il y a eu plusieurs constitutions qui se sont succédées, évidemment, mais si je prends la constitution montagnarde, la plus progressiste, qui n'a pas été en vigueur pendant très longtemps, celle de 1793, celui qui arrive en France et qui vit un an en France, soit il épouse une Française, soit il achète un immeuble. On dit quand même, bon, voilà. Un immeuble, ça peut être une terre. Hein. Soit il nourrit un vieillard, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas la retraite. Soit il adopte un enfant, parce qu'il n'y avait pas l'aide sociale en France. Et qui prête le serment révolutionnaire, devient citoyen français. Et donc, tu vois, un an de résidence, et puis tu fais un truc qui t'attache un peu au territoire. Alors, bon, épouser une Française, bon, c'est bon. Je ne reviens pas là-dessus. Avoir un immeuble aussi, c'est bon. Voilà, on est quand même. Mais nourrir un vieillard, adopter un enfant, tu vois, et prêter le serment révolutionnaire, c'est-à-dire, en fait, adhérer à l'idée qu'on va faire un peuple souverain et qu'on va être maître de notre destinée en tant que peuple français, c'est, en tant que peuple souverain, comparé au roi et à toutes ces conneries, hein, je veux dire, bon, c'est quand même vachement chouette. Enfin, de se dire, et tu vois, il n'y a pas de définition du français. C'est le citoyen français, sa patrie belle l'a bien montré. Les deux définitions sont enchâssées. C'est le citoyen français. On est citoyen français, on n'est pas national. En fait, et donc, tu arrives et tu as envie d'adhérer et ça aussi, c'est intéressant pour nous. Tu arrives à un endroit et tu as envie d'adhérer au projet politique révolutionnaire. Pouf, bah, tu es dans le truc. Bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque évidemment, même en 1795, ça a commencé un peu à foirer assez rapidement, puis après avec Napoléon. Et je reviens, je finis un peu. Napoléon a fini de fermer la parenthèse, puisque lui, avec son code Napoléon en 1804, il a instauré le droit du sang. Et donc là, déjà, le code civil sépare le français, on ne parle pas encore de nationalité, mais sépare le français du citoyen, bon, le citoyen. il est rapidement mis aux oubliettes, puisqu'il y a très rapidement le sens, c'est-à-dire qu'il faut payer de l'argent pour pouvoir voter, etc. Les citoyens, c'est-à-dire celui qui participe à la vie de la cité, sur le modèle grec, hein, les révolutionnaires, voilà, ils étaient un peu dans le truc Athènes et compagnie, tu vois, ils étaient dans, bon, Napoléon, il exige le citoyen, il garde le français, et c'est assez rigolo, parce que aussi les trucs de l'histoire, tu vois, c'est ça qui est marrant, parce que je trouve qu'il ne faut pas être trop déterministe non plus, dans le, c'est rigolo, je vous raconte cette petite histoire juste comme ça. Peut-être que vous ne trouvez pas ça intéressant, ce serait pas. Non, mais parce que donc Napoléon, il arrive, donc c'était pas un grand intello, etc. Il y avait un certain nombre de mecs qui étaient là avant, des juristes, des machins, qui devaient rédiger le code civil, bon, il les a un peu mis à sa botte et tout ça. Et les types, ils avaient découvert à cette période, donc là on est au début du 19e, ils avaient redécouvert des trucs, des vieux testaments du droit romain, de Justinien, machin chose, de 5 siècles avant J.C. et tout. Et ils trouvaient ça super classe. Et dans le code justinien donc, en Italie, le code du romain, justinien, etc., il y avait, pour appartenir aux villes romaines, etc., beaucoup le droit du sang, ius sanguini. Et donc les types, tu vois, les érudits, ils trouvent ça génial, tu vois, ils ont découvert les trucs, ils disent des machins, ils disent ah ouais, le ius sanguini, c'est classe. Et ils disent à Napoléon, là, tu vois, en plus lui, il se prenait pour l'empereur, machin, et son truc de. Ouais, laurier, merci. Mais bon, lui, cela dit, il était vachement pour le droit du sol, parce que lui, il voulait faire la guerre. Il voulait faire la guerre, évidemment, il l'a fait. Et donc, pour faire la guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des soldats, et des soldats français. Donc lui, il n'était pas du tout avec les, comment il s'appelait, c'est la Portalis et compagnie. Il était en faveur du droit du sol, hein, parce que plus t'as le droit du sol, ça fabrique plus de gens. Et c'était, ça veut dire ceux qui étaient déjà là, étaient français, et ceux qui naissaient de ceux qui étaient déjà là étaient français, etc. Donc lui, petite bagarre entre les intellos et les guerriers, machin, et finalement, il cède Napoléon, enfin, les Portalis et compagnie cèdent sur plein de trucs, mais sur ça, il gagne. Et donc, dans le Code civil, et ça, c'est aujourd'hui encore le cas dans le Code civil, le premier, c'est ça qui est dingue, le premier titre pour devenir, pour être français à la naissance, c'est le droit du sang. C'est-à-dire, dans le Code civil, t'as la naissance et après t'as le territoire, j'en dirais deux mots, mais le premier dans l'ordre, toi, chronologique, hein, français d'origine, je sais pas si ça va comme ça, ou quoi, c'est est français celui dont un des parents au moins est français. Alors ça, c'est la version actuelle. Sous Napoléon, c'était le père. Hein, est français, toute personne dont le père est français. Et déjà, sous Napoléon, il y avait un peu de droit du sol. C'est-à-dire, était est français celui. Dont qui naît en France d'un père lui-même né en France. Donc c'est ce qu'on a encore nous aujourd'hui avec la version mixte. Donc est français à la naissance, français française à la naissance, toute personne qui naît en France, alors quand il a un parent déjà né en France. Ça veut dire que tu nais français à la troisième génération. Vous voyez le truc, tu viens ton grand-père vient d'Algérie, hop, il donne naissance à une fille. Elle n'est pas forcément française à la naissance, mais l'enfant de cette fille sera français à la naissance. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Mais bon, bref, et après j'ai presque fini. Au tout début, c'était pas obligatoire. Donc, les types, ils naissaient français d'un parent né en France, et quand ils avaient 18 ans, ils renonçaient. Pourquoi? Parce que le service militaire, ça durait 10 ans, et après, t'allais te faire zigouiller à la guerre. Donc, c'était mieux, quand t'étais un immigré italien, un fils d'immigré italien, de dire que t'étais italien, surtout qu'à l'époque, tu vivais comme un français. Il n'y avait pas de ségrégation, il n'y avait pas de problème, tu pouvais conclure des contrats, te marier, etc. Donc, quel intérêt t'allais avoir à rester français si c'était pour te faire 10 ans de. Bon, tout ça pour vous dire, et après, là, c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin du 19e, les étrangers, il y en a, c'est des Belges, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, et ils sont dans les zones frontalières. Mais l'État, le droit étatique n'est pas en mesure, le droit en vigueur, comme on dit chez les juristes, ne peut pas permettre de savoir qui est français et qui est étranger, parce que tu peux renoncer à la naissance, tu peux faire des papiers, des machins, donc c'est un peu le bordel. Et donc jusqu'à il y a 100, on est en quoi, 2024, disons jusqu'à il y a 100-150 ans, le droit en vigueur ne permettait pas de désigner clairement qui était français, qui était étranger. Donc ça veut dire que, en fait, il n'y avait pas vraiment de français ni d'étranger. C'était des déclarations volantes au moment de la rescousse. Ah ben non, en fait, j'ai renoncé l'année dernière, machin. Donc bon, voilà, c'était un. Et donc il n'y avait pas de carte. Il n'y avait pas de carte d'identité.
C'est juste.
Voilà, donc. donc, ce que nous, on considérait comme un peu. un peu comme un attribut de la personne, finalement, cette sorte de nationalité. Puisque tu peux pas faire ci, pas faire ça, pas aller en vacances, pas aller en vacances, machin, etc. Enfin, tout ça, c'est tout le papier d'identité. Tu remplis le moindre truc. Enfin, moi, je gueule parfois. Il y a marqué sur les trucs de photo au tennis de mes enfants, nationalité. Tu as envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu en as à foutre de savoir la nationalité de.
Mon enfant peut faire du tennis.
Voilà. Nom, prénom, nationalité. Là, je veux dire, bon. C'est, on a l'impression que c'est comme le sexe, tu vois, un truc à. Alors bon. Enfin, je dis ça. Mais bon, voilà. Donc voilà. Et donc en fait, c'est le cas. C'est le cas de cette histoire de nationalité fixe imprimée dans une carte pour que l'État puisse savoir avec certitude. Grosso modo, c'est le cas depuis. C'est Vichy qui a vraiment. Le régime de Vichy qui a uniformisé la carte nationale d'identité, donc voilà.
Dans les années 1900, ouais. Il y a eu des émeutes contre la carte d'identité. Ouais. Les émeutes syndicales, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Ça me paraît vrai sur nous. Ouais. Et je ne sais pas si c'était uniquement question de nationalité ou sur des autres.
Mais oui, la guerre de 14, c'était un tournant monstrueux dans.
Non, mais c'est bien peut-être d'en parler maintenant parce qu'on n'a pas trop parlé du 20e siècle au final.
Ouais.
Non, parce qu'il y a quand même il y a deux guerres, il y a l'entre-deux-guerres, il y a l'État qui faut des soldats, des gens pour reconstruire, des gens à l'usine, mais c'est peut-être le moment d'en parler.
Ouais. Non, c'est-à-dire que donc, grosso modo, la première loi sur la nationalité, c'est une loi de 1889 qui rend le double droit du sol obligatoire et qui empêche les gamins qui sont nés en France à leurs 18 ans, c'est-à-dire si tu étais né en France, à tes 18 ans, tu pouvais réclamer la nationalité française. C'est encore le cas aujourd'hui, même à tes 13 ans. Donc en France, si tu nais en France, à tes 13 ans, tes parents, de manière anticipée, peuvent demander ta nationalité, parce que tu as la nationalité française. Mais là, à l'époque, c'était 18 ans, mais bon. Donc, cette loi de 1889, elle fige des trucs, elle empêche les trucs où tu peux renoncer, voilà. Et donc, mais les étrangers, donc, fin du 19e, il y a une sorte de. Entre 1850, c'est ça en fait, ce qui est important à bien voir, c'est que l'accueil et la condition des personnes qui viennent d'ailleurs a toujours été déterminée par les besoins de la main-d'œuvre. Et en gros, à partir du milieu du 19e, il y a le début, timide, parce que la France était un peu à la bourre de la révolution industrielle, et donc du coup, il y a besoin de main-d'œuvre. Et la France, donc ça c'est aussi vachement intéressant, 1850, et ça, Philippe Riquel l'a très bien montré dans ses travaux, donc il y a déjà plein de gens, je ne sais plus parce que je suis venue avec les chiffres, mais des millions de personnes, des millions d'Européens qui vont aux États-Unis pour trouver une vie meilleure. Voilà, on leur dit pas, vous êtes des migrants économiques, Là, les États-Unis ont besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas de problème, eux ils partent. Mais je veux dire, aujourd'hui, on leur dirait, non quoi. Eux, donc évidemment, les Italiens, les gens, tous les films de Scorsese que j'avais vus, etc. Bon voilà, cette immigration.
Beaucoup d'Ariégeois.
Ouais, non, mais ça m'étonne.
Beaucoup d'Ariégeois.
J'ai plus les chiffres, mais dans le bouquin, il y est, dans le film, et dans le livre, c'est plusieurs millions de personnes.
C'est plusieurs millions de personnes. Ouais,
je ne vais pas dire de conneries.
4 millions de
personnes. Mais européens, pas seulement français.
Oui,
mais
c'est plutôt.
C'est beaucoup.
Il y a plein de gens
qui partent. Un gros flux de personnes. Et à l'échelle de l'Europe, par contre, c'est rigolo, c'est la France est un peu. L'Angleterre, évidemment, est au top de la révolution industrielle. L'Angleterre est sur sa petite île, donc voilà. Mais en Europe continentale, c'est la France qui réussit le mieux avec la machine à vapeur, etc. Et avec ce développement du tout industriel. Donc il y a beaucoup besoin de main-d'œuvre en France. Ce serait intéressant aussi de parler de ça, parce que c'est aussi lié à une sorte de progrès technique qui fait qu'il y a des concentrations, que les petits ateliers deviennent des usines, et que du coup. Elles ont besoin de main-d'œuvre environnante, elles n'en ont pas assez autour, donc elles en prennent ailleurs. Et il faut savoir que l'agriculture française ne s'est mécanisée qu'au milieu du XXe siècle, après le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc genre 1955-60. Donc jusqu'en 1950, il n'y avait pas beaucoup de tracteurs, donc ça veut dire qu'il faut du monde pour bêcher la terre. Beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, il y a pas mal de gens qui vont en France qui vont travailler dans les usines, et donc beaucoup besoin de main-d'œuvre dans l'agriculture. Donc, la France, dans cette deuxième moitié du 19e, est un des premiers pays d'immigration. Beaucoup de Belges, Italiens, qui viennent. Et là, à ce moment-là, rien à foutre. Enfin, comme on en a besoin, les patrons en ont besoin, il n'y a pas de. L'immigration spontanée vient, il n'y a aucun problème. Il y a des risques, parce qu'à un moment donné, il y a la Grande Dépression, à toute fin de la guerre. Donc à partir du moment où il y a du chômage, il y a parfois des heurts et des revendications. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que cette loi vient fixer les contours entre le français et l'étranger, justement parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient justement de ces immigrés italiens qui font vivre tout comme les Français, mais qui ne font pas le service militaire, etc. Donc tout ça, c'est lié vraiment à l'économie.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
Quand il y a besoin de main-d'œuvre, les gens arrivent, travaillent et les lois, la première loi qui vient, c'est une loi de 1893 qui oblige les personnes étrangères, quand elles arrivent dans une commune, à aller à la mairie, à s'enregistrer et en échange, le maire leur donne un petit papier où il y a marqué leur nom, leur machin. C'est un peu l'ancêtre de la carte de travailleur étranger. Et c'est, normalement, l'employeur doit exiger ce petit papier pour t'employer quand tu es étranger. Bon. Tout ça, en fait, ça reste lettre morte. Les employeurs n'en ont rien à foutre, ne demandent pas le papier et ça, il ne se passe rien parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre. Et c'est vraiment, disons grosso modo, la Première Guerre mondiale qui marque un tournant parce que l'État a besoin de contrôler un peu ses frontières, c'est la guerre. Donc l'État a peur pour son territoire et donc marque des points de passage frontaliers et essaie d'établir un petit peu un contrôle et crée cette carte d'identité de travailleur étranger et saisonnier et colonial. Carte d'identité de travailleur étranger et colonial. Parce que c'est à ce moment-là, et après, en gros, on aura tout vu, parce qu'après, on fera des copier-coller dans l'histoire. Donc à ce moment-là, il y a besoin de main-d'œuvre puisque les mecs sont partis se faire buter au front. Je veux dire, ça, c'est l'État. Non, je veux dire, quand même, l'électrice Coué-Paté, elle a dit non, on n'est pas obligé de mettre ça. Si, il y a 1,5 million de personnes qui sont mortes. Je veux dire, on nous dit l'État, sans l'État, ce serait la catastrophe, on s'entretuerait tout, il y aurait plein d'insécurité, ce serait la... Mais je veux dire, avec, qu'est-ce qui peut réussir à faire que 1,5 million de personnes se fassent tuer à part l'État.
Le même nombre.
Ouais. Voilà, de gueule cassée et compagnie, et des gens. Donc les mecs sont partis se faire tuer au front, donc il faut des gens pour les remplacer dans les usines et aussi dans les usines d'armement et dans les champs pour bêcher la terre et tout. Et là, l'État crée des structures d'importation de main-d'œuvre. Donc des bureaux avec des administrations. On importe 250 000 Chinois. C'est la communauté chinoise de Belleville date de cette époque. Sur des bateaux, on va les chercher. Alors, on ne prend pas les gros bigaleux, les machins, les mecs qui ont mal aux dents et tout ça. On les trie, on les ramène en Chine et aussi dans les colonies. Et eux, ils sont mis au travail dans des conditions qui sont du travail forcé. Ils sont encadrés par l'armée, plus aussi des travailleurs plutôt européens qui, eux, sont gérés par le ministère du Travail et qui travaillent plus dans des trucs un peu moins durs. Et donc, en gros, on importe 500 000 travailleurs étrangers qu'on s'empresse renvoyer chez eux avant même que l'armistice soit signé parce qu'il ne faut pas qu'ils grèvent le marché du travail français, etc. Mais les structures sont créées, le bureau de l'immigration, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et donc, bon, assez rapidement, c'est toujours pareil dans les guerres, la croissance ne repart pas tout de suite. Hein. Il y a un petit creux comme ça, mais très rapidement, donc, au début des années 20, on se dit putain, il va falloir, on a besoin de main-d'œuvre. On ne va pas y arriver. En plus, bon voilà, démographie qui fuit toujours, il y a toujours le même truc, la réarmement démographique, là c'est pareil. C'est-à-dire, ils mesurent aussi la quantité de leur pouvoir face à la quantité de la population sur laquelle ils peuvent exercer leur domination. Donc ils aiment avoir. Voilà. Donc c'est la loi de 1927 dont tu parlais. C'est-à-dire que là, par exemple, aussi, on a besoin de français parce qu'on, si on, à partir de 1927, on voit un peu quand même la potentialité d'une deuxième guerre qui se profile. Donc qui dit guerre dit besoin de soldats. Donc on ouvre, par exemple, en 1927, l'État français ouvre l'accès à la naturalisation de manière très large. C'est ces personnes qui seront dénaturalisées sous Vichy. Enfin, une partie. Mais en tout cas, dans les années 20, on se dit merde, on a besoin de main-d'œuvre. Donc là, ça c'est intéressant parce que en gros, il se repasse à la même chose, pas tout à fait, mais pareil, mais presque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'État signe des conventions bilatérales avec les États, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, pour importer de la main-d'œuvre. On va aller chercher, on fait des centres de recrutement là-bas. comme on l'a fait en Chine, on le refait en Pologne, en machin, en Italie, hein, pour apporter des gens et les mettre au travail. Et dès les années 30, je vais vite, je suis désolée, sinon il faut qu'on parle un peu de la situation actuelle, qu'on va parler un peu de l'asile, etc. Donc je suis désolée, c'est brossé à grand trait. Mais dès que la crise économique des années 30 se profile, eh bien, ce qu'il faut quand même que je dise, c'est que l'État commence, parce que ça aussi c'est une constante, l'État commence dans les années 20 avec sa bureaucratie qu'elle avait mis en place dans la forme. Mais très rapidement, les patrons, le patronat, double l'État. Parce que l'État, vous le savez bien, avec sa bureaucratie, il s'empête, c'est lent, c'est machin, il y a des quotas qui sont négociés de travailleurs, mais le temps qu'on les estampille, qu'on les épouille, qu'on les machin, qu'on les vaccine, ça prend du temps. Donc le grand patronat saute par-dessus et va directement chercher les gens, etc. Donc ça, c'est aussi une constante qu'on retrouvera après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là, l'État et les patrons, on les retrouve toujours main dans la main, avec des rôles, comme l'État se fait souvent un peu niqué par les patrons, d'une certaine façon, enfin, je veux dire, pas niqué, mais je veux dire, doublé sur la droite, l'État, lui, comme il veut quand même exister, dans les années 30, c'est ça, dans les années 30, par exemple, quand on commence à renvoyer les gens chez eux, par exemple, dans les mines, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant, les étrangers ont toujours occupé les emplois, toujours, du 19e siècle à aujourd'hui, les emplois les plus durs, les plus dangereux, les moins bien payés.
Et les plus fondamentaux aussi.
Oui,
parce qu'on n'a pas eu le charbon, c'est les plus dangereux.
Ah, Et donc, dans les mines, beaucoup de Polonais, ça c'est Janine Ponty qui l'a bien documenté, beaucoup de Polonais qu'on avait fait venir par des convois de trains, etc., que les patrons avaient fait venir. Et dans les années 30, milieu des années 30, on leur dit bon, bah maintenant c'est sympa, merci pour tout. Vous avez 48 heures, 30 kilos de bagages par personne. Et on a fait repartir comme ça des dizaines de milliers de personnes qui avaient bossé 10 ans dans les mines avec toute leur famille. Et hop, voilà, retour à l'envoyeur. Donc, donc c'est un peu, c'est une constante, l'État orchestre, c'est toujours servi de la main d'œuvre étrangère en fonction des besoins économiques, et je termine là-dessus, parce que c'est aussi une constante, depuis cette période, donc cette première guerre mondiale qui a été le début de la gestion moderne des flux migratoires par l'État, parce qu'avant c'était laisser faire, laisser passer, disons, pour tout le monde. Et de toute façon, les gens n'avaient pas d'identité claire. S'il y a une chose qu'il faudrait retenir, c'est ça, c'est que avant la Première Guerre mondiale, et même en pratique, jusque dans les années 20-30, les gens n'avaient pas d'identité. C'est-à-dire, si vous vouliez vous marier, donc la carte d'identité nationale, c'est 1921, si vous vouliez vous marier, si vous vouliez acheter une maison dans un bled ou à 200 km de chez vous, il fallait, vous preniez votre carte. À un moment, il y avait des cartes de transport, des cartes de grands magasins où il y avait des photos, parce que c'était très rare les photos. Et vous alliez à la gendarmerie avec votre tante et l'oncle de votre nièce, et il y avait deux témoins, le gendarme tamponnait votre carte des Galeries Lafayette et avec la photo. Et c'est ça qui vous servait d'identité, vous pouviez aller acheter un terrain dans un endroit où les gens ne se connaissaient pas. Parce que jusqu'au début du XXe siècle, l'établissement de l'identité des personnes, c'est des réseaux d'interconnaissance personnelle. C'est-à-dire, lui, je le connais, c'est machin. Voilà. Et donc ça, c'était hier. Hein. Et tant qu'il n'y a pas de cartes telles qu'on les connaît, eh ben, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nationalité. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Je sais plus ce que c'est. Je pense que j'ai dit.
Justement, tu as parlé de constante et tout, ça c'était. De toute façon, cette question elle va être posée. En fait, quand on regarde cette histoire, un peu cette généalogie d'étrangers que tu viens de faire, il y a une constante qui marque aussi, et tu l'as bien dit, donc là, recrutement massif depuis certains pays. On va chercher des contingents en Pologne, Italie, Espagne, Portugal. Quand on regarde de près cette généalogie de l'étranger, c'est difficile de ne pas voir qu'elle est couplée avec une grosse histoire, une espèce d'ombre portée comme ça, une histoire de racisme. On détaillera avec Sarah Mazouz, qu'on va recevoir, qui est une grande sociologue qui travaille depuis longtemps sur la race, qui a publié Race dans la même collection que Carlis, mon consoeur à toi. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est quand même chevillé à un racisme anti-noir, anti-arabe très français, parce qu'on peut en parler maintenant.
Oui, justement, oui, tout à fait. Merci, parce que bon. Et en fait, et cette première guerre mondiale, où on commence à faire. Où l'État commence. Les structures étatiques s'organisent pour importer de la main-d'œuvre. Là, déjà, et ça, c'est Laurent Dornel, qui est un historien, qui l'a très bien montré, qui a fait des travaux formidables là-dessus, qui a très bien montré que c'est la première tentative de sélection ethnique, raciale de la main-d'œuvre par l'administration française, qui est hantée, et ça, on le retrouve pendant la Première Guerre mondiale, mais on le retrouve tout au long du XXe siècle, qui est hantée par. Qui dit que, voilà, il y a des gens qui sont assimilables. Facilement, donc c'est des Européens blancs chrétiens, et par contre il y a la main-d'œuvre exotique, ça c'était le nom officiel, la main-d'œuvre exotique qui, elle évidemment, est fainéante, inassimilable, et qu'on veut surtout renvoyer chez elle dès que la guerre sera finie, parce qu'on ne peut rien en faire, quoi, à part. Ça. Donc ça, oui, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la haute administration. Donc ça commence, officiellement, la première fois qu'on voit dans les documents officiels, tu vois, cette idée qu'on va choisir plutôt des blancs que de la main-d'œuvre exotique, c'est la Première Guerre mondiale. Mais après, ça se retrouve tout le temps, et ça se retrouve surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie est toujours française. Donc, comme je vous l'ai dit, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, après, il y a un petit moment où c'est un peu comme ça, c'est la merde, voilà, les décombres et tout ça. Et ça commence à, milieu des années 50, on commence à construire des choses, et là, on a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Et l'Algérie est encore française, et donc les Algériens sont français, et donc ils bénéficient évidemment, la liberté de circulation entre les deux côtés de la rive de la Méditerranée. Ils ont besoin d'aucun papier, d'aucun document, etc. Et cette haute administration française. Et elle est fondamentalement raciste et elle est obnubilée par l'invasion des Nord-Africains qui sont fainéants, inassimilables, etc. On retrouve pratiquement ça. Enfin, j'ai plus en tête les notes, mais vraiment dans les notes officielles en disant qu'est-ce qu'on va faire ? C'est l'invasion des Nord-Africains. Or, nous, il nous faut vraiment de l'italien, de l'espagnol, voire même du portugais. Et ça, c'est un peu en. Et ça, c'est Alexis Pierre qui l'a très bien montré, cette espèce d'échelle des désirabilités. Alors que l'italien, par exemple, était un peu un indésirable depuis le début, enfin, la fin du 19e, hein, le rital. Là, l'italien devient l'immigré, mais de rêve. De rêve, on fait tout. Alors, les Italiens qu'on fait venir dans les années 50, ils sont là, il n'y a pas de logement, etc. Ils ne sont pas trop dans les bidonvilles nantaires, mais ils sont dans des baraquements, dans des machins, etc. On leur verse des allocations familiales alors que leur famille est encore là-bas. Et on leur paye le voyage, etc. On fait tout pour les attirer, justement pour contre l'immigration algérienne. Voilà. Et donc, il y a vraiment ça. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et grosso modo le milieu des années 70, où on a besoin de main-d'œuvre, et où donc tous les gens viennent librement. Franchit ses frontières librement. Tout le monde est régularisé. Tout le monde est régularisé, jusque dans les années 70-80, grosso modo. Ce qui est déterminant, c'est pas est-ce que vous allez obtenir des papiers ? C'est pas ça la question. C'est en combien de temps vous allez obtenir des papiers ? Et là, Spire le montre très bien. Suivant votre nationalité et votre couleur de peau, vous allez mettre tout de suite, vous allez obtenir des papiers, si vous êtes italien. Donc après, il y a les Espagnols. Il y a quand même ils sont racistes quand même jusqu'au bout. C'est-à-dire que le portugais, c'est quand même moins bien que l'italien. Je sais pas pourquoi. Donc, il y a une sorte de... Et puis après, vraiment, bon, voilà. Si vous êtes tunisien, marocain, algérien, après l'indépendance, vous allez finir par obtenir. Mais ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où vous aurez des cartes précaires de merde qui vous laissent à la merci de votre patron, etc. Donc oui, ça a toujours été une histoire de hiérarchisation des gens en fonction de race présumée. Hein.
Les rencontres politiques en Ariège, c'est à retrouver en écoute sur Radio qui pique. La politique s'occupe de nous, alors occupons-nous de la politique.
On on n'en a pas trop parlé, mais il y a un durcissement des politiques en matière de migration. Bon, sur les années 70-80, là, ça ferme quand même très fort. Mais on sait très, enfin, ça c'est très bien documenté, on sait très bien que au lendemain du coup d'État de Pinochet au Chili, en fait, l'ambassade de France à Santiago a été une des portes de sortie de la dictature. Là, franchement, il y a eu les conseils, c'est pas documenté, c'est faites ce que vous avez à faire. Il y a plein de Chiliens qui ont clairement échappé à la torture, à la mort, en passant par l'ambassade de Paris à Santiago, qui ont tué. On l'a revu là avec l'Ukraine. Enfin, c'est encore quelque chose de très. L'Ukraine, oui, mais la Syrie, non.
Ah oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, l'Ukraine, oui, la Syrie, non. Alors, c'est intéressant, c'est sur le cas chilien. Donc, c'était quand même déjà un moment où. On avait, la France en tout cas a commencé un peu à faire passer frontières, tu vois. Et moi, je n'ai jamais vraiment bien compris. Bon, ils étaient blancs, ils étaient chrétiens, mais ils étaient quand même un petit peu gauchistes. J'ai jamais vraiment compris pourquoi ils les avaient. Ça n'a jamais été très clair. Pourquoi on les avait accueillis si bien, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour eux qu'ont été créés les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA, aujourd'hui. C'est un peu le luxe, puisque seulement un tiers des demandeurs d'asile sont admis en CADA. Non, mais c'est pas du luxe. Sinon, c'est la rue, la tente, le pont. Normalement, théoriquement, en CADA, tu as un minimum d'accompagnement juridique. Bien sûr. Mais il fut un temps où le CADA était un peu le droit commun. C'est-à-dire, la personne, une fois qu'elle demandait l'asile, elle était dans un CADA, il y avait des gens qui l'aidaient un peu à remplir sa demande d'asile, elle avait un peu d'aide, machin, etc. Et ça a été créé pour les Chiliens, après le coup d'État. Et peut-être, puisque j'ai l'impression que tu avais envie de venir sur la et puis après, je vais vous passer la parole, enfin, une fois que tu veux. Je voulais parler des choses. Mais peut-être, pour un effet marquant. Je pense et qui montre que le droit instrumentalise vraiment les choses. Je parle souvent de ça parce que ça paraît aussi. Jusque dans les années. Je crois que j'ai le chiffre pour. C'est bizarre dans des chiffres parfois. Jusque dans les années 70, mais en gros, en 1975, grosso modo, je simplifie un peu, combien il y avait de personnes qui proposaient une demande d'asile en France ? 1973, à votre avis, grosso modo, allez. Ordre de grandeur.
1000 max, non ?
1000.
Ah ouais ?
1000 ? 1000 personnes, pourquoi ? Pourquoi en 1973, ou je ne sais plus, 72, peu importe, c'est fou, il y avait 1000 personnes qui demandaient l'asile ? Parce que les gens, jusqu'alors, venaient, franchissaient les frontières tranquillement, sans problème, arrivaient, trouver du boulot et été régularisé. Donc pourquoi aller raconter comment tu t'es fait torturer, comment tu t'es fait machiner à quelqu'un, etc. Aucun intérêt. Parce qu'en plus, après, tu ne pouvais plus rentrer chez toi parce que tu avais le statut de réfugié, etc. Donc en fait, 1000 personnes utilisaient l'asile. Et sur ces 1200. Non mais je veux dire, là aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 nouvelles demandes d'asile par an, grosso modo, même parfois un peu plus, pour vous donner un ordre de grandeur. De 1 à 100. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était une voie pour obtenir un titre de séjour, mais bon, c'était pas la seule. Et donc, sur ces 1200 personnes, 97% obtenaient l'asile. Hein, c'était pas la question. La question, c'était plutôt de trouver. Ça, c'est marrant aussi quand les choses s'inversent. T'arrivais, on te donnait quasiment le statut de réfugié. D'ailleurs, je vous conseille vraiment la lecture d'un super bouquin, en plus, il est pas dans mon poche, de Karen Akoka sur migrants réfugiés, histoire d'une distinction, histoire du droit d'asile. Elle montre très bien. Donc, à l'époque, en plus, les sections de l'OFPRA, qui était l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui aujourd'hui est une horreur. Et qui à l'époque c'était comme des consulats des différents pays, tu vois, t'avais les Russes, mais donc ils recevaient les gens en russe, ils parlaient en russe, tu vois, ils fumaient le samovar et ça, du coup après ils te donnaient le truc. Et la difficulté, c'était de comment faire pour obtenir la sécu pour les gens, un logement, etc. Mais c'était pas de savoir si t'allais avoir le statut ou pas. Tu rentrais, t'arrivais, on te donnait le statut et on essayait de te trouver un appart, on essayait de t'ouvrir tes droits sociaux, etc. C'est ça la difficulté. Et puis au fur et à mesure, comme on a fermé, comme l'État a fermé les frontières et renoncé à régulariser les gens, c'était, et ça aussi c'est un autre chiffre, dans les années, à la fin des années 60, 80% des gens qui obtenaient un titre de séjour
l'obtenait par régularisation. C'est-à-dire que la grosse majorité des gens arrivaient soit avec un visa touriste, soit sans papier, et étaient régularisés a posteriori avec un boulot. C'était la voie normale, c'était la régularisation. Aujourd'hui, l'admission, ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour, c'est zobi. T'as même pas le rendez-vous en préfecture dans certains trucs, tu vois, pour cliquer, t'as même pas la case admission exceptionnelle au séjour. Et Bardella, il dit qu'il veut faire zéro admission exceptionnelle au séjour. Mais avant, jusque dans les années 70, c'était la voie normale, pas la voie, en tout cas pas la voie normale, mais c'était 80% des gens. Et donc quand ça a été terminé, on arrête les régularisations, on essaie de fermer les frontières, on impose des visas, on n'a pas le temps de parler des visas, mais qui sont une pièce maîtresse du dispositif de fermeture, à partir du moment où tu fermes tout, bah, une des seules voies légales, c'est le regroupement familial, bon, bah, après il faut trouver quelqu'un avec qui se marier, etc., et ou l'asile. Et donc on passe de 1000 à 100 000. Et on passe de 97% de taux d'admission à, ça varie aujourd'hui, depuis la guerre en Syrie, on est autour de 20-25%, après la CNDA, après la Cour nationale des droits d'asile, grosso modo. Oui.
Moi j'ai une question, peut-être tu vas pouvoir m'expliquer, parce que j'ai vécu 10 ans en Mayotte, et il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'avant 1995, c'est un archipel, il y a 4 îles qui ont été françaises et qui a eu l'indépendance en 1975, mais seulement une seule des îles est assez française, c'est Mayotte, et les 3 autres ont demandé leur indépendance. Et ils ont la même culture, la même langue, la même religion, ils sont tous cousins, voilà. Ça circulait librement entre ces 4 îles. Et il y a 60 km entre Anjouan et Mayotte, donc c'est très peu. Beaucoup de gens, alors ils n'étaient pas français, mais ils venaient à Mayotte, il n'y avait pas de visa. Ils venaient à Mayotte pour un mariage, pour se faire soigner, pour travailler un peu, ils gagnaient un peu d'argent, puis ils repartaient. Et donc ça circulait librement entre les îles. Et ça a commencé à devenir problématique en 95 avec le visa baladure. Voilà. Et alors, j'ai jamais réussi vraiment trop à comprendre quel était l'intérêt, puisque ça se passait quand même relativement bien. Alors, pourquoi imposer un visa qui fait que, après, les gens, une fois qu'ils venaient, il fallait qu'ils n'obtenaient pas le visa. Donc, ils venaient clandestinement. Et comme ils avaient risqué leur vie et toutes leurs économies pour venir à Mayotte et donc pour venir en France, bah, ils y restaient. Ils avaient peur de partir, donc ils restaient là. C'est là que l'immigration clandestine massive a commencé. Donc pourquoi avoir imposé, je comprends, parce que on va pas parler de visa, mais du coup je suis désolée, j'aborde le sujet, mais pourquoi imposer un visa qui du coup complique la situation alors que la libre circulation des gens fonctionnait très bien?
Je suis pas une grande spécialiste de l'outre-mer, je connais évidemment un petit peu le cas de Mayotte quoi ça. Moi j'ai l'impression qu'ils voulaient stopper l'immigration. Pourquoi on peut redire la même chose, pourquoi dans les années 80, et ça Sylvain Laurent se montre bien, pourquoi avoir décidé de fermer les frontières dans les années 70? On nous dit crise économique, chômage, et donc toujours on dit crise économique, chômage, donc on a décidé de fermer les frontières. Mais il montre bien que c'est pas du tout aussi évident. C'est une clique de un groupe de, tu vois, d'énarques qui sont empreints de l'analyse économique néolibérale, qui font des tableaux bénéfices plus machin chose, pour déficit, etc., et qui construisent l'immigration comme un problème. Et qui du coup disent, il faut fermer les frontières parce qu'il y a trop d'immigrés, ça pose un problème et ça va creuser le déficit. Je pense que la Mayotte, c'est pas, et donc c'est pas du tout une décision qui découle de sens de fermer les frontières dans les années, d'arrêter l'immigration de travail dans les années 70 et d'arrêter la politique de régularisation. Je pense que la Mayotte, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une décision politique pour signifier, pour arrêter l'immigration et construire l'immigration comme un problème. Après, je pense qu'il y a quand même des spécificités locales, une pauvreté peut-être. Avec des services publics qui sont un minimum maintenus à Mayotte, un grand minimum, puisqu'ils n'ont plus l'eau potable, on parle de minimum, et qui créent des disparités avec. Il y a une disparité du coup pour certaines prestations entre des îles, et ça crée une sorte de volonté de venir peut-être plus qu'avant, et qui justifie politiquement, de la rhétorique, une décision politique. Cela dit, je voudrais quand même dire que le référendum était illégal, puisque comme c'était une archipel, normalement, l'ONU n'a jamais reconnu le référendum. C'est-à-dire que normalement, ils auraient dû prendre globalement
la solution.
C'est Giscard qui a fait une petite astérisque tout en bas du document en disant qu'il compterait les voix île par île.
Ça, il n'avait pas le droit international, il n'avait pas le droit. Ça, c'est aussi une constante du droit des étrangers. Le droit international, on en a rien à foutre. Le droit interne non plus, le droit international, nous aussi. Et ça aussi, tu vois, déjà, tout commence par là. Normalement, Mayotte devrait être indépendante aussi. C'est super compliqué là, la situation, parce qu'il y a aussi des camarades qui disent pourquoi on maintient ce truc post-colonial là-bas. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, n'étant jamais allée à Mayotte, bon, j'ai quand même beaucoup lu et j'ai une très bonne copine qui a été une des avocates, qui a été 10 ans là-bas et qui a défendu les étrangers avec la seule sur les. Ouais, Marjane Guerin. Et donc, bon, j'ai quand même beaucoup parlé avec elle, mais n'étant jamais allée là-bas, je me sens pas. Je pense que j'ai pas compris non plus tous les tenants et les aboutissants du machin.
Merci.
Ouais, c'est toujours pas mal de rappeler que, du point de vue de l'ONU, la présence de la France à Mayotte est illégale. On l'entend rarement. Moi, j'ai envie de te poser une question qui va peut-être plus être sur ton côté militant que ton côté juriste. Qui est en fait, enfin surtout là à l'époque, enfin, au moment politique qu'on est en train de traverser, tu nous as expliqué que ça avait été plus ou moins facile d'immigrer pendant très longtemps en France, et puis progressivement ça s'est refermé, on a fait de l'OFPRA, voilà, aussi cette institution qui a changé. Et pour un certain nombre de dirigeants, comme pour un certain nombre de citoyens et citoyennes, je pense que la première remarque qui va être faite, c'est. Ben oui, mais il a bien fallu justement qu'on durcisse parce qu'on a laissé faire pendant trop longtemps et ça nous a posé tout un tas de problèmes. Or, ceux qui travaillent sur cette question-là savent que ça, c'est faux et que c'est de la propagande. Et moi, j'aimerais que tu nous dises quelques mots là-dessus pour qu'on puisse tous et toutes avoir aussi des billes quand on nous fait cette remarque-là. Parce que c'est de la propagande, en fait.
C'est-à-dire que c'est difficile de. Sylvain Laurent montre bien, enfin, je trouve vachement intéressant, parce que dans le discours, dans la doxa, tu lis Le Monde, machin, tu dis, ah oui, dans les années 70, il y avait la crise économique, donc on a fermé les frontières, parce qu'il y avait le chômage, et que du coup, tu vois, il n'y avait plus assez de boulot, donc il ne fallait plus que les gens arrivent, etc. En fait, c'est pas du tout. Bah, voilà, après, si les gens qui croient dans l'économie, de toute façon, ils y croient, c'est comme un peu une religion, voilà, tu ne pourras pas les. On pourrait dire aussi, on aurait pu. Ce qui marche à 60 millions pourrait très bien marcher à 70 millions. On peut dire aussi, et ça, tu le disais aussi, si les frontières sont ouvertes, les gens font beaucoup plus d'aller-retour, et repartent un peu au bled, ailleurs, etc., et reviennent, etc. Là, quand c'est hyper difficile de venir, que tu risques ta vie, que tu payes 10 000 euros, tu vas pas repartir, hein, voilà. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est. Pour convaincre les gens, c'est d'abord un phénomène nouveau qui date de là pour le coup de 25 ans, c'est les gens qui meurent en mer. Tu vois, ça veut dire les gens là aujourd'hui, si on ferme, il y a des gens, ils continuent de venir parce qu'ils viennent toujours, enfin très souvent quand même pour des raisons diverses. C'est-à-dire que il y a parfois une seule raison, évidemment, bon, la guerre en Syrie, mais c'est souvent quand même. Même dans ces cas-là, c'est souvent plusieurs raisons entrelacées, tu vois. Les gens, ils ne sont pas dans des catégories. La définition juridique du réfugié dans la Convention de Genève, sur laquelle on pourra revenir, qui est quand même ultra merdique, elle met des gens dans des catégories. Les gens, ils partent parce qu'ils sont un peu persécutés pour leur opinion, mais aussi parce que c'est un peu la misère économique, etc. Souvent, il y a plusieurs raisons. Donc, voilà. Ils partent en dépit des barrières qui sont dressées sur leur chemin, en dépit des dangers. Et donc, il y en a quand même des milliers qui meurent en mer. Donc, il faut dire aux gens, déjà, si tu es pour cette politique de fermeture des frontières, il faut que tu assumes ces morts. Moi, je le dis franchement à mes étudiants, quand je leur parle, il faut quand même assumer les choses. On peut avoir des positions politiques, quelles qu'elles soient, dans notre pays, tant que tu n'appelles pas à la. Au crime raciste, enfin, pour l'instant, tu as le droit d'avoir à peu près l'opinion que tu veux. Mais je veux dire, il faut quand même assumer ses choix politiques. Donc, si tu es pour la fermeture des frontières et la gestion des flux migratoires, comme on dit, il faut que tu assumes le fait que y a des milliers de gens qui meurent sur la route. Déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite.
Ils s'en foutent, non ?
Bah ouais, les gens leur répondent, ils sont capables de venir.
Oui, parce
que c'est
leur avis, ils sont capables de partir.
Alors, tu peux dire à ces gens-là, tant que t'as encore envie de parler avec eux,
ouais.
C'est un petit peu le problème quand même. Non, mais il y a un autre truc aussi qu'on peut dire, et ça, pour faire un pont avec ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'il y a un truc super pernicieux dans le droit des étrangers, c'est que c'est un droit, d'abord, je vais un peu vite, mais parce que tu vois, moi je peux pas dissocier mon côté juriste et mon côté militant parce que.
Bah tant mieux.
C'est un peu là. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est souvent des pratiques illégales de l'administration qui commencent et après.
Qui sont lâchées par le droit.
Voilà. Et le droit arrive après, par une sorte de voiture balai de ça.